Et nous voulons continuer à nous approcher. À nous approcher de ce trône de grâce avec assurance. Merci parce que nous l'avons chanté, nous sommes forts. Nous sommes plus que vainqueurs par le sang de Christ. Oui, Seigneur, tu as payé de ta vie, ton sang a coulé pour le salut de nos âmes. Tu es mort, mais bien plus, tu es ressuscité. Et tu es assis sur ton trône de grâce et tu règnes. Seigneur, nous nous plaçons là devant toi pour t'écouter. Parle-nous, Seigneur, parle à nos cœurs. Rends nos cœurs, Seigneur, semblables à cette bonne terre, afin qu'elle puisse recevoir ta parole et donner du fruit, mais vraiment du fruit en abondance pour la gloire de ton nom. Seigneur, bénis chacun d'entre nous et bénis notre écoute de ta parole. Que le Saint-Esprit ouvre nos cœurs, ouvre notre intelligence spirituelle pour que nous puissions vraiment comprendre, accepter ce que tu désires nous dire ce matin. Merci encore pour ta fidélité et merci de savoir que tu nous fais le privilège d'être dans ta présence ce matin. Nous aimons ta présence. Amen.
Amen.
Alors, je vous propose quelques versets tirés du livre d'Exode pour le message de ce matin. Exode chapitre 2, versets 23 à 25. Jusqu'à Exode 3, les versets 1 et 2. Exode 2, 23, 25, c'est la fin, les trois derniers versets, Exode 2. Et les deux premiers versets d'Exode 3. Je lis au nom du Seigneur. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Chapitre 3, verset 1 et 2. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu. À Horeb, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Jusqu'ici, la lecture de la parole du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai en tout cas pour ma part, toujours été impressionné, mais vraiment impressionné par la différence d'attitude et de comportement entre Moïse et ses contemporains, les enfants d'Israël. Le livre d'Exode, en tout cas, commence par nous présenter la condition, mais une condition extrêmement pénible des descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob en Égypte. Après 400 ans, en tout cas passés dans ce pays, et alors que pendant les premières années, ils avaient bénéficié de la faveur des Égyptiens, mais après 400 ans, ils ont été ensuite cruellement maltraités et réduits. Je vais dire la plus simple expression, mais vraiment réduit à l'état d'esclave. Dans leur souffrance, ils ont, dit ce passage, crié à Dieu afin qu'il les délivre. Le Seigneur a été touché justement par leur cri, par leur prière en quelque sorte, Et là, on voit donc un libérateur du nom de Moïse. Bien que Moïse soit né hébreu, il avait échappé, lui, à l'esclavage et a été élevé par la fille, en tout cas, du Pharaon. Ce qui lui avait donné, en quelque sorte, le statut de petit-fils du roi. Et bien qu'il avait été prince d'Égypte, Moïse était ému par la situation désespérée de ses frères de sang. Pour sauver sa vie, il a dû fuir suite à un incident, puisqu'il avait tué un Égyptien. Il a dû fuir dans le désert et il est revenu des années plus tard en Égypte pour délivrer Israël de ses chaînes par la parole et la puissance de Dieu. Alors, la délivrance d'Israël, frères et sœurs, nous renvoie aussi à notre propre délivrance de l'esclavage du péché. L'Égypte représente en quelque sorte le système du monde et Israël, le type de l'Église. Par la nouvelle naissance, nous avons été libérés du système du monde, de sa tyrannie et de son oppression. Il n'est pas difficile d'imaginer les conditions de vie des enfants d'Israël en Égypte. En tout cas, les Égyptiens usaient et même abusaient d'eux. Le dos des esclaves était lacéré par des coups de fouet et leurs gardiens, de leurs gardiens, ils vivaient dans des taudis, on dirait aujourd'hui dans des bidonvilles, et n'avaient pour nourriture que ce que les Égyptiens, en tout cas, voulaient bien leur donner. Ils n'avaient aucun espoir, mais vraiment aucun espoir de richesse. Et au contraire, ils étaient contraints de bâtir la prospérité de leur maître. Ils pleuraient. Ils pleuraient leur fils qui avait été mis à mort par milliers sur l'ordre de Pharaon. Pourtant, bien qu'ils aient souffert, vous voyez, de la sorte, ils ont quand même, mais vraiment quand même très vite, c'est curieux, très vite oublié quel avait été leur sort en Égypte. Une fois libérés, lorsque les choses ne se passaient pas comme ils l'avaient espéré, ils en venaient, en tout cas ce peuple, ils en venaient même à regretter d'être sortis d'Égypte, reniant en quelque sorte les prières, les cris qu'ils avaient fait monter jusqu'à Dieu pour qu'il les sauve, en déclarant que leur sort en Égypte était préférable. Nombre, chapitre 14, verset 4, nous enseigne qu'ils sont même arrivés à déclarer ceci. Donnons-nous un chef et retournons en Égypte. Donnons-nous un chef, et ça se passe déjà dans le désert après la traversée de la mer. Donnons-nous un chef et retournons en Égypte. Voilà. Vous voyez ? Mais il n'en était pas ainsi pour Moïse. Pourtant, Moïse était le seul d'entre eux à avoir vécu dans des conditions favorables en Égypte. En réalité, son sort était auparavant le meilleur qui puisse exister à cette époque. Il avait été éduqué par l'homme, je dirais, le plus riche de la terre. Il avait vécu dans un confort sans équivalent. Il avait mangé les meilleurs plats, porté les plus beaux habits et reçu la meilleure éducation et formé dans les meilleures écoles possibles. Les serviteurs accomplissaient ses moindres désirs et vous imaginez que son héritage était considérable, que ce soit en richesse ou en pouvoir en tant que petit-fils du roi. Malgré tout, la Bible déclare ceci dans Hébreux, chapitre 11, verset 24-26, que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la petite fille, pardon, fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, estimant l'opprobre du Christ un plus grand trésor que les richesses de l'Égypte. Volontairement, il avait renoncé à sa position avantageuse, et cela contrairement aux enfants d'Israël. Et il n'a jamais regretté cela, il n'a jamais regardé en arrière, ni regretté quoi que ce soit, Moïse. Il avait compris en fait, et même fait l'expérience que seul le nom de l'Éternel, seul le nom de l'Éternel, c'est-à-dire sa présence, vaut plus que toutes les prétentions et tous les avantages humains. Seule la présence de Dieu. Comment donc expliquer cette différence d'attitude et de comportement entre les enfants d'Israël d'un côté et Moïse de l'autre? La réponse est simplement la suivante, frères et sœurs. Moïse avait rencontré Dieu. Moïse avait rencontré Dieu. Vous savez, bien aimé, lorsque vous avez réellement rencontré Dieu, mais rien au monde, mais vraiment rien au monde ne pourra plus jamais vous attirer au point de vous détourner de ce Dieu-là. Rien au monde au point de vous amener à abandonner ce Dieu-là, lorsque vous l'avez vraiment rencontré. Moïse avait rencontré Dieu. Vous voyez, souvent, il arrive qu'on évoque le cas d'une personne ayant fréquenté l'église de Jésus-Christ pendant plusieurs années, plusieurs décennies, ayant vécu au milieu de nous, et un jour, nous apprenons simplement que cette personne a rétrogradé au point même de renoncer à la foi en Jésus-Christ. Alors, croyez-vous qu'une telle personne avait vraiment rencontré le Seigneur? 1 Jean chapitre 2, verset 19 dit « Il s'en sortit du milieu de nous, mais il n'était pas des nôtres. » Moïse avait vu le feu du buisson ardent et s'était approché. Il avait rencontré le Dieu vivant dans le buisson ardent sur le mont Horeb. Mais Israël, les enfants d'Israël, n'avaient jamais fait cette expérience. Lorsque l'Éternel l'avait appelé, lorsque l'Éternel avait appelé les enfants d'Israël, Moïse s'était approché. Plus tard, lorsque les enfants d'Israël ont reçu à leur tour cette invitation, mais en tout cas semblable à celle que Dieu avait adressée à Moïse, et voire même une invitation, je dirais, encore plus extraordinaire que celle de Moïse, ils ont reculé et ils ont fini par refuser. Moïse, de son côté, a voulu rassurer le peuple en ces termes. Exode chapitre 20, verset 21, pardon, verset 20 à 21, « Ne vous effrayez pas. » Mais c'est Dieu qui vous invite. « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Le peuple restait dans l'éloignement. Mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Le peuple refuse. Souvent, lorsqu'on pose la question de savoir où exactement Moïse conduisait les enfants d'Israël lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, où Moïse les conduisait-il? La réponse qu'on entend habituellement est, ce qui est vraiment, mais vraiment en partie, la réponse qu'on entend habituellement est vers la terre promise. Vers la terre promise. Mais en réalité, ce n'est pas ça la bonne réponse. Ce n'est pas d'abord vers la terre promise que Moïse voulait conduire le peuple. Il les conduisait vers le mont Horeb. Vers le mont Horeb, appelé aussi le mont Sinaï, Exode chapitre 7, verset 16. Dieu avait dit ceci à Pharaon par la bouche de Moïse. « Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve, qu'il me rende un culte, qu'il m'adore dans le désert. » C'est-à-dire au mont Sinaï. Il ne s'agit pas de laisser mon peuple aller afin d'hériter d'une terre d'abord. Pourquoi Moïse les aurait-il amenés vers la terre promise sans qu'ils rencontrent au préalable celui qui leur avait fait la promesse, Dieu lui-même? Si Dieu avait agi ainsi, c'est-à-dire que si Dieu leur avait donné la terre promise sans d'abord le rencontrer lui, que se serait-il passé? Mais ils auraient aimé la promesse plus que Dieu lui-même. Ils auraient aimé la terre promise plus que Dieu lui-même. Moïse était impatient de les amener là où lui avait rencontré Dieu, afin de faire la même expérience que lui. Là, au buisson ardent, Moïse avait besoin d'apprendre ce qui convenait dans la présence de Dieu. Et en même temps, apprendre à connaître, voyez, les rapports entre un Dieu saint et un peuple chargé d'iniquité. Ces deux choses, Moïse les avait apprises dans le buisson ardent de feu, qui toutefois ne se consumait pas, mais c'est ce que le peuple avait refusé de faire comme expérience. C'est dans la présence de Dieu que l'homme est amené à apprendre ce qui convient dans sa présence. Comment se tenir dans sa présence? C'est dans la présence de Dieu. Je ne vais pas aller apprendre ailleurs comment se tenir dans la présence de Dieu et ensuite venir dans la présence de Dieu pour pouvoir me manifester. Non, c'est dans la présence de Dieu que l'on apprend comment se tenir dans la présence de Dieu. Et c'est ce que Moïse a fait comme expérience, et non pas ailleurs, dans la présence de Dieu. C'est toujours dans la présence de Dieu que l'homme apprend aussi à connaître les rapports entre un Dieu saint et un homme chargé de péché, d'iniquité. Frères et sœurs, il s'agit d'une double leçon, de la grâce divine d'un côté et de la sainteté divine de l'autre. Bienvenue dans le Seigneur. Voyez, j'aime quand c'est Dieu lui-même qui prend les choses en main. C'est Dieu qui prend les choses en main. Il invite son peuple. C'est ce qu'il avait fait en invitant le peuple vraiment à venir dans sa présence. Il avait pris les choses en main. Quand Dieu t'invite, mais vraiment quand Dieu t'invite, surtout ne l'évite pas. Et le peuple avait évité Dieu. C'est cette double leçon que nous sommes, nous aussi, censés apprendre à notre tour au pied de la croix, la leçon de la grâce d'un côté et la leçon de la sainteté de Dieu de l'autre côté. Notre Dieu est saint et c'est un Dieu de grâce, mais c'est au pied de la croix. Nous devons apprendre cette leçon. Nous avons en quelque sorte, fait la même chose dans les églises. Nous avons plus prêché ce que Jésus allait faire pour nous. C'est ce que le peuple avait pensé. On veut ce que Dieu veut faire pour nous, mais on ne veut pas rencontrer Dieu. Et nous avons beaucoup plus prêché ce que Dieu allait faire pour nous. Et nous avons négligé d'annoncer en premier lieu qui il est, Jésus. Qui il est. J'ai été touché par ce témoignage rendu, mais de façon brève, mais puissante, par Hélène dans la semaine, qui me disait, au moment de sa conversion, en tout cas dans ses premières années de la foi, là où elle était, mais on leur prêchait Jésus, 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 Jésus. Oui, nous devons apprendre justement à annoncer qui il est, Jésus. Vous voyez, nous pourrions comparer cela à une femme qui épouse un homme pour son argent. Sa motivation n'est pas de connaître la personnalité de son mari. Mais en tout cas, tout ce qui l'intéresse, c'est de savoir ce qu'il peut faire pour elle. Alors peut-être qu'elle l'aime quand même, en tout cas jusqu'à un certain point, mais pour de mauvaises raisons. Vous voyez, les personnes qui mettent l'accent sur les bénédictions de Dieu au détriment de la relation avec lui fabriquent des disciples qui recherchent Dieu par intérêt personnel plutôt que par un désir sincère d'obéissance spontanée à cause de sa personne. Il n'y a rien qui soit semblable à lui et rien ne peut être comparé à la personne merveilleuse de Dieu. Une fois que l'on a rencontré Dieu comme Moïse l'a vécu, les promesses de l'Éternel prennent une juste perspective. Une fois que l'on a rencontré Dieu, il est tellement plus précieux que toute autre chose, plus que les richesses de ce monde, plus que les bénédictions qu'il peut nous apporter. Le but principal de Dieu en libérant le peuple d'Israël de la captivité était qu'il puisse le connaître et apprendre à l'aimer. Il voulait se révéler à eux. Il a dit « Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et fait venir vers moi. » Exode 19, verset 4. Et pourtant, ils ont manqué leur destinée. Dieu désire, frères et sœurs, ardemment vivre cette intimité avec son peuple. Son désir ne s'est jamais atténué. Il n'a jamais changé et nous le voyons dans toute sa parole. Et peut-être même plus nettement dans la prière que Paul adresse aux chrétiens d'Éphèse, Éphésiens chapitre 1, versets 16 à 17, lorsqu'il dit « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. » C'est-à-dire un esprit qui donne accès au mystère et au secret de Dieu. Dans toute sa connaissance, c'est-à-dire un esprit qui nous fasse connaître Dieu, mais vraiment d'une façon intime et profonde. Dieu a fait connaître sa passion. Il désire que chacun de ses enfants, en tout cas nés de nouveau, ayant la semence divine en lui, le connaisse d'une manière intime et profonde. Cela devrait nous faire vibrer d'enthousiasme. Alors si ce n'est pas le cas, il y a évidemment un problème. Nous servons un Dieu vivant, le Père qui nous a créés et dont le cœur brûle d'amour pour ses enfants. Dieu aime la communication. Il désire en quelque sorte l'interaction. L'apôtre Paul a montré ce point d'une manière limpide aux chrétiens de Corinthe. Vous savez que, dit-il, lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes. En comparaison, Dieu vivant est vrai qui parle. Donc, pour Paul, une des qualités primordiales de Dieu qui fait de notre Père une personne exceptionnelle et bien différente de toutes les idoles et de tous les faux dieux, c'est qu'il parle. Il parle. Notre Dieu parle. Adam avait une relation directe avec le Seigneur, mais à cause du péché, à cause de la désobéissance, il a été séparé de la glorieuse présence de Dieu ainsi que toute l'humanité après lui. Les hommes et les femmes n'ont plus jamais vu Dieu, comme Adam, pardon. On avait le privilège. Cependant, Dieu le Père, animé d'une grande passion et d'une grande compassion, désire ardemment rétablir cette communion perdue à cause de la chute. Et pour ce faire, il nous a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Le Fils, nous dit la Bible, était de toute éternité avec le Père. Le Fils est Dieu manifesté en chair et il a payé. Il a payé pour que nous puissions être libérés des ténèbres et réconciliés avec Dieu en le recevant comme notre Seigneur et notre Sauveur. Pourtant, cette réconciliation entre Dieu et l'homme aussi n'a pas été prêchée ni vécue dans son expression complète. Nous avons mis l'accent sur la libération du péché et de la mort, ce qui n'est pas mal. Mais nous avons négligé la proclamation de la communion intime disponible pour tous ceux qui ont été libérés. C'est la réconciliation. Cette négligence est grave, peut-être même désastreuse, pardon, parce que beaucoup sont privés de la connaissance merveilleuse et intime de Dieu. C'est cette grande tragédie que nous avons évoquée à travers ce parallèle dans l'histoire des enfants d'Israël et Moïse. Nous avons plus prêché ce que Jésus allait faire pour nous. Et nous avons négligé en premier lieu qui il est. Ce que nous devons réaliser, frères et sœurs, c'est que la bénédiction de Dieu est toujours gardée dans sa présence. Loin de Dieu, éloigné de sa présence, il est impossible de garder sa bénédiction. La bénédiction de Dieu ne se garde pas en dehors de sa présence. C'est toujours dans sa présence que l'on jouit de sa bénédiction. Alors, Seigneur, fais de nous des personnes comme Moïse, qui savent et qui prouvent que Dieu est tout. Des personnes qui savent que Dieu veut tout de nous. Des personnes qui savent que c'est lui aussi qui fait toutes choses pour nous, mais vraiment pour la gloire et l'honneur de son nom. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Mais évidemment, pour celui qui prend la résolution de vivre uniquement dans la présence de Dieu. Que Dieu nous bénisse et bénisse sa parole. Amen.